Bonjour à tous, bienvenue sur le mug numéro 103 en ce mercredi. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 19 février. Oui, je regardais la date parce que je ne connaissais pas le numéro du jour aujourd'hui. Mais voilà, je suis de retour après une petite semaine où j'ai pas pu vous retrouver. J'espère que vous avez la forme, que vous m'entendez bien et que vous êtes tranquillement devant votre petit déjeuner pour ceux qui m'écoutent en live et tranquillement en train de faire ce à quoi vous êtes concentrés, voilà, pour ceux qui nous qui m'écoutent en replay. Voilà, donc je vous propose tout de suite de commencer. Je vois qu'il y a du monde dans la chatroom. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'actualité. Alors, ActuTech riche ce matin, vous savez que j'aime bien avoir des petits sommaires variés, et ben c'est le cas ce matin et je vous propose de commencer tout de suite avec une actualité qui concerne Patreon. Vous savez, cette plateforme qui permet aux créateurs de pouvoir monétiser un petit peu leur création, leur production. Vous savez que nous, chez Naotech, on est chez Tipeee, mais il y a plein d'autres créateurs qui sont chez Patreon, qui est une plateforme. Alors, je sais plus si c'est une plateforme, je crois que c'est une plateforme américaine. J'avais un doute avec une plateforme canadienne, mais je crois que c'est une plateforme américaine. Bon, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans la chatroom et je corrigerai. Mais voilà, c'était normalement basé de l'autre côté de l'Atlantique. On va dire ça comme ça. oui, on me confirme dans la chatroom, c'est bien américain. Et donc, comme de la même manière que les autres plateformes qu'on connaît, du type Tipeee, que vous connaissez si vous nous soutenez, ils permettent donc aux créateurs de pouvoir avoir des soutiens mensuels ou, enfin, que ce soit récurrent ou juste en one shot, de la part de leurs fans, de la part des personnes qui souhaitent les soutenir. Et ça permet à ces créateurs de pouvoir avoir une indépendance de créateurs pour pouvoir produire. Alors, ça peut être des musiciens, ça peut être des artistes BD, ça peut être des youtubeurs, ça peut être voilà, il y a plein d'applications différentes, de créateurs différents sur cette plateforme et il permettait de monétiser, de pouvoir gagner un revenu avec cette plateforme. Et Patreon, évidemment, prend une part du gâteau, se sert un pourcentage sur les tips, les soutiens effectués par les fans pour pouvoir faire tourner la plateforme et l'améliorer, etc. Voilà, donc ça c'est le modèle standard. Mais en fait, ils sont en train de préparer quelque chose, puisqu'en fait, ils vont sortir Patreon Capital. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des espèces de micro-prêts, on va dire ça comme ça, des petits prêts pour les créateurs. Alors, concrètement, comment ça se passe ? C'est comme si vous receviez de l'argent et en échange, vos futurs gains plus un frais supplémentaire, un intérêt va être prélevé sur vos futurs paiements. Donc en fait c'est une avance sur l'argent gagné avec Patreon avec un frais prélevé pour les frais de fonctionnement évidemment. Donc ça va permettre aux créateurs de pouvoir financer des projets de développement, d'équipement, etc. sans attendre d'avoir juste l'argent de côté et pouvoir faire le saut un peu plus rapidement pour pouvoir les aider à se développer. Je trouve que la proposition est très très intéressante, c'est quelque chose qui je pense répondra à des besoins des créateurs. C'est généralement assez compliqué de pouvoir financer certaines étapes en tant que créateur. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Alors traditionnellement, ces micro-prêts, normalement, ils sont prévus ou en tout cas proposés par les banques. Alors là, on va avoir une réaction peut-être de rejet parce que la notion de prêt et de gestion par les banques, ça nous Peut-être un peu comme ça. Mais voilà, pour donner le support et l'accompagnement nécessaire au créateur. Et finalement, on peut se poser la question, qui est le mieux placé pour pouvoir proposer ce type de prêt entre les banques qui vont se référer à des rapports financiers ou Patreon qui va avoir tout plein de données sur le nombre d'abonnements, le nombre de soutiens réguliers, le montant moyen des dons, etc., etc. Je trouve ça assez intéressant comme, comment dire, comme idée, quoi. Et c'est pas les premiers à faire ça, hein, Patreon. Il y en a d'autres qui ont proposé des offres similaires avant eux, notamment Shopify et Stripe, qui eux aussi vont avoir des données un peu plus enrichies que juste des rapports financiers que les banques auxquelles les banques ont accès. Et donc, ils vont proposer ce genre de micro-financement pour pouvoir aider les créateurs ou les petits commerces à se développer. Mais la réalité s'arrête pas à juste Patreon veut aider les créateurs, hein. Pourquoi ils sortent ça? Bah, tout simplement pour pouvoir diversifier et améliorer le business, hein, de Patreon et de créer des nouveaux moyens de revenus, hein, des nouvelles sources de revenus pour Patreon en diversifiant son offre. Voilà, c'est pas juste pour les beaux yeux des créateurs. Et Jérôme nous dit, je ne me vois pas arriver à la banque en présentant le modèle de crowdfunding. Oui, alors c'est vrai qu'en France, en plus, c'est quelque chose où je pense qu'on n'est pas super, super mature sur le sujet en termes de système bancaire. C'est pas le seul sujet sur lequel ils sont pas hyper matures, hein, d'ailleurs. Mais bon, on va pas faire que cracher sur nos banques. Et c'est pour ça qu'on peut se dire Patreon qui finance justement les créateurs, qui connaît bien les créateurs et qui peut avoir des stats sur la viabilité des business des créateurs pourra potentiellement plus facilement, ou en tout cas être dans une meilleure position pour pouvoir les accompagner dans leur développement. Donc je trouve l'idée super pertinente. J'ai envie même de dire étonnant qu'ils n'y aient pas pensé avant. Mais bon, après, voilà, c'est quand même une gestion financière un peu compliquée. Ça va être des contrats, etc. Donc du coup, c'est pas forcément un sujet super simple à aborder, mais en tout cas, je trouve que Patreon Capital, ça fait vraiment, c'est assez logique, assez évident, et je pense en effet que ça va pouvoir venir en aide, aider les créateurs à se développer. Donc je trouve que l'idée est très très intéressante. Voilà. Donc en effet, hein, le CEO l'année dernière avait donné un interview où il disait en effet, il est critique pour Patreon de trouver des nouvelles sources. Des nouveaux modèles de financement et donc Patreon Capital en est un très bon exemple. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera disponible, je ne sais pas si c'est déjà disponible, donc on va voir, hein, dans les temps à venir, mais si ce n'est pas encore le cas, ça devrait l'être sous peu en tout cas. Voilà pour Patreon. Voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler et ces nouveaux modèles de financement. Je trouve que c'est bien de se renouveler un petit peu et d'avoir comment dire, des interlocuteurs qui vont potentiellement mieux comprendre ton business. Tu te sentiras plus écouté avec des offres potentiellement mieux adaptées aussi à ton type de business. Bref, ouais, je trouve vraiment, vraiment ça intéressant. On enchaîne avec une news Apple. Je sais que vous aimez bien avoir des petites news croustillantes. Je pense que Patterson, je pense que Patreon a assez de data pour déterminer rapidement si tel ou tel projet est viable pour attribuer un crédit. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Comme le dit souvent Jérôme, rien n'est gratuit. Bah oui, heureusement Eric. Là, en effet, hein, ils prennent un pourcentage, hein, pour faire tourner pour le fonctionnement des crédits, pour le fonctionnement de la plateforme Patreon, etc. C'est normal parce que c'est des choses à développer, à maintenir. Voilà, c'est un accompagnement à proposer et ça, c'est pas gratuit, hein. Voilà, donc c'est une vraie expertise. Donc je trouve que c'est normal. On enchaîne avec notre petite news Apple pour que les Apple fanboys aient leur petite news croustillante ce matin. Alors qu'est-ce qui se passe? A priori, hein, rumeur. Alors, à prendre avec des pincettes, vous connaissez les pincettes, hein, maintenant chez Naotech. Donc on prend cette news avec des pincettes. Parce que c'est pas du tout confirmé, hein, on n'a pas encore de date. Mais a priori, il y aurait de prévu en mars. Très 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 bientôt, un refresh de la ligne des iPad Pro chez Apple. Voilà, donc c'est cool. Moi, ça m'intéresse. J'espère que du coup, l'ancienne génération va baisser de prix parce que, encore une fois, j'ai envie d'avoir une prise USB-C et plus le port Lightning. parce que mon Mac est en USB-C, donc ça devient compliqué d'avoir 36 000 câbles, et je pense que vous êtes nombreux dans la chatroom à vivre la même chose que moi. J'en ai marre de cette duplicité des ports. et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, certes, il y aurait un refresh des iPad Pro, mais a priori, les commandes, ou en tout cas le stock, ne serait pas au rendez-vous pour plusieurs raisons, et il ne serait pas au rendez-vous jusqu'à même après avril. Donc, ça fait long quand même, et c'est quand même, ça risque bien d'entamer les prévisions trimestrielles pour les chiffres d'Apple. Alors, ils avaient déjà mis en garde suite au coronavirus qu'il ne rencontrerait pas les chiffres espérés pour le trimestre. Mais bon, voilà. Donc là, il y a également l'extension, donc je sais pas ce que c'est, du nouvel an lunaire chinois, enfin en Chine en tout cas. Je fais une traduction un peu littérale, donc je m'excuse si j'ai complètement mal interprété le nom de l'événement. Mais en tout cas, voilà, il y a cette période qui va être étendue en Chine. Et en plus, évidemment, ce que je vous disais, les répercussions du coronavirus, où de nombreux manufactureurs ont ralenti la production, certaines boutiques ont fermé, etc. Et donc, du coup, il y a eu aussi des problèmes de transport en Chine. Donc voilà. Les iPad Pro sont pas forcément les seuls à avoir un petit refresh et une nouvelle ligne. Alors oui, je vous ai même pas dit, la nouvelle ligne, a priori, elle proposerait des meilleures caméras, parce que c'est vraiment essentiel sur un iPad, et un capteur 3D beaucoup plus sensible. J'ai été un petit peu méchante quand je disais des meilleures caméras sur l'iPad. Il y en a qui prennent des photos avec des caméras. Après, vous pouvez faire aussi des lives avec un iPad Pro. Bref, chacun ses usages. Mais déjà que j'utilise pas, moi, en tout cas, je peux vous dire, déjà que j'utilise pas trop l'appareil photo sur mon smartphone, autant vous dire que l'appareil photo sur l'iPad, ça me passe très 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 loin au-dessus de la tête. Mais en tout cas, a priori, l'iPad Pro, c'est pas les seuls à avoir un refresh prévu pour mars. Il y aurait aussi potentiellement d'annoncer un iPhone low cost et également une mise à jour pour le MacBook Pro 13 pouces, voilà, qui aurait donc le clavier que tout le monde aime, un processeur plus performant, une nouvelle carte graphique et d'autres améliorations qui s'inspirent du modèle 16 pouces sorti l'année dernière. Voilà, voilà un petit peu pour les rumeurs, je précise, rumeurs évidemment pour mars. Voilà pour Apple. On va faire un petit tour du côté un peu low-tech. Je trouvais ça assez marrant comme news, assez innovant. Donc je voulais vous en parler un petit peu. Alors de quoi il s'agit? Je vais vous montrer déjà le visuel. Alors vous avez le titre. Je mets ma main devant l'iPad pour vous cacher le titre, mais en fait à l'écran ça ne va pas marcher. donc voilà. Donc ça, vous avez la photo d'un étrange appareil, donc de forme rectangulaire, qui, pour ceux qui étaient vivants ou nés, on va dire ça comme ça, nés dans les années 70-80, rappelle évidemment un téléphone fixe avec le fonctionnement, la roue qui tourne pour enclencher les numéros. Voilà, il y a quatre touches à peu près visibles. Il y a une antenne, il y a des LED sur le côté, il y a 10 LED sur le côté, donc 10 petites lumières. Voilà un petit peu pour le descriptif de l'objet. Il a un côté un peu rétro. Pourquoi il a un côté rétro? Parce qu'en fait, l'empreinte, évidemment, le système de cadran téléphonique rotatif qui était utilisé couramment, on le voyait partout sur les anciens téléphones durant les années 70-80 jusqu'à ce qu'il se fasse balayer par les touches. Les téléphones à touche. Triste moment pour les cadrans rotatifs. voilà pour ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est cet objet? Alors, c'est pas juste un ancien téléphone, non, parce que vous voyez que ça ne ressemble quand même pas à un téléphone des années 70-80. Alors, en fait, tout simplement, c'est une ingénieure américaine qui s'appelle Justine Haupt qui a créé son smartphone idéal, son smartphone maison qui est adapté à sa vision de la technologie. Donc je trouve ça super intéressant, c'est vraiment chouette de voir un peu qu'est-ce qui conviendrait aux gens, comment ils imaginent leur smartphone idéal adapté à leurs usages. Alors là, on n'a pas du tout de portée de production de masse au grand public, hein, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et elle explique justement que son téléphone a de nombreux avantages, c'est pas juste jouer avec un anachronisme avec le cadran rotatif, mais il a de nombreux avantages, notamment une meilleure réception avec l'antenne amovible. Il a également un accès direct à la fonction téléphone sans passer par une appli. Alors là, je pense qu'on peut chronométrer le temps passé à faire le numéro comparé à faire un numéro sur un téléphone, un smartphone, et voir que même avec une application, finalement, c'est plus rapide. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas une question de rapidité ici. Aucune obligation également d'envoyer des messages à tout va. Donc là, la fonctionnalité SMS qui la fatigue. Il y a également un indicateur précis de batterie. Alors, précis dans la mesure où il y a 10 LED lumineuses au lieu de 4 barres. Faut pas oublier aussi que sur les smartphones, on peut avoir le pourcentage de batterie qui est donc du coup bien plus précis. Mais voilà. Et en plus, il y a un écran flexible à encre électronique pour le confort des yeux et évidemment la longévité de la batterie. Alors ça, c'est sûr que la longévité de la batterie, il y aurait de quoi à dire. Et le confort des yeux, je dois dire, je m'y retrouve assez, hein. Moi, j'ai pas mal de fatigue oculaire et donc ça, en effet, je peux en effet me retrouver dans ce commentaire. Ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, elle a fait le smartphone qui lui convient pour elle, vraiment à elle, en fonction de ses envies et de sa vision de la technologie, mais elle ne le garde pas uniquement pour elle, puisqu'en fait, elle a mis son modèle open source, donc du coup, vous pouvez trouver les plans disponibles pour construire votre propre modèle de téléphone avec cadran rotatif, donc de smartphone avec cadran rotatif, écran à encre électronique, et voilà. Donc, je vous montre un petit peu... Oh là là, mais... Cette espèce de vidéo qui se déclenche toute seule. Donc, vous voyez un peu le plan. Si vous y comprenez quelque chose, tant mieux. Si vous y comprenez rien, eh ben, je suis comme vous. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que l'idée est très chouette. Ça montre un peu de créativité et d'appropriation de la technologie. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. J'ai un autre bug Mac. Alors, non, mais parce que ça devient quand même une blague, l'affichage de l'heure pendant qu'on fait les lives, hein, quand même. Donc, il est 10h41 sur mon iPad. Tout va bien. Il est 8h02 sur l'écran de mon Mac et il est 8h19 sur mon écran. J'ai 3 heures différentes. On va s'en sortir. Tout va bien. Je te jure, j'avance dans le temps. Je suis bloquée dans le temps avec Apple. Je trouve ça génial quand on fait des lives. Bref. Tout va bien. Voilà. Donc, je vous propose de continuer. Je ris toute seule. Hein. Je vois que je ne fais rire personne dans la chatroom. Jérôme me confirme que 8h19, c'est la bonne heure. Merci. Donc, il faut que je me réfère à cet écran-là et pas à l'écran devant moi. Ah, si. Alors là, curieux, mon écran de Mac s'est actualisé. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai maintenant 8h19. Donc, j'ai sauté 17 minutes d'un coup sur mon écran de Mac. Il y a vraiment des choses bizarres qui se passent quand on fait des lives. Voilà, Marion se téléporte à plusieurs fuseaux horaires, c'est tout à fait ça, Matt. Je continue et je reste concentrée avec notre prochain article low-tech. Alors, c'est pas tant low-tech, c'est plutôt le look qui fait un peu low-tech et les matériaux utilisés, mais l'usage est moderne, puisqu'en fait, il s'agit, donc je vais vous montrer encore une fois la photo. Donc là, c'est un bracelet du silence pour éviter que des appareils électroniques vous écoutent. Donc, vous voyez, le look est assez rétro, hein, encore une fois. Je trouve ça assez marrant et voilà, donc c'est une nouvelle vision de la mode, on peut dire ça comme ça, et vous pouvez le porter de cette manière là tout ce que vous direz ne sera pas capté par les enceintes connectées, par exemple. Voilà pour la photo. Et donc, d'où ça vient cette histoire ? Ben, en fait, ça vient d'un couple de professeurs de science d'ordinateur. Computer science, please. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider là ? J'ai mon cerveau qui n'arrive pas à faire les traductions ce matin. Comment vous traduisez en français computer science ? J'en sais rien. Bref, voilà, donc c'est un couple qui s'appelle donc le mari Ben Zhao et sa femme Heather Zhang. Ouais, voilà, des professeurs d'informatique. Oui, vous avez raison, traduction facile, sciences informatiques ou informatique. Donc voilà, c'est ce couple-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, Ben, on va les appeler par leur petit prénom, Ben a acheté une enceinte connectée Echo. Vous savez, donc avec Alexa, hein, donc de la marque Amazon, qui est donc une enceinte connectée qui peut être déclenchée à la voix par l'assistant Alexa et auquel, du coup, il peut écouter, en fait, il peut écouter ce qui se passe en permanence pour détecter le mot, le wake-up word, donc le mot qui va réveiller l'enceinte, qui va réveiller Alexa pour pouvoir interagir avec, donc il est tout le temps en train d'écouter, et normalement il n'enregistre pas à moins qu'il détecte un mot similaire au wake-up word, donc au mot de réveil, on va dire, au mot de déclenchement. Voilà, et donc en fait, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Heather, donc sa femme, n'était pas du tout enchantée à l'idée d'avoir une enceinte. Et surtout, elle a dit, bah non, mais surtout pas dans le bureau. Ils ont un espace de bureau où ils travaillent tous les deux. Voilà. Et elle ne voulait absolument pas qu'il soit dans l'espace de bureau parce qu'il y a des informations, comment dire, confidentielles qui ne doivent pas être enregistrées ou quoi que ce soit. Et donc, elle ne voulait pas que ce soit disponible dans le bureau. Son mari a été un petit peu têtu. Et donc, au lieu de se disputer de manière pas vraiment constructive, eh ben, ils ont essayé de tourner ça dans quelque chose de constructif en faisant appel tout simplement à un assistant de professeur Pedro Lopez qui a du coup conçu une pièce, on va dire, d'armure numérique, en gros, pour vous protéger contre le numérique, donc une espèce d'armure avec ce bracelet, une armure numérique, donc ce petit bracelet du silence, avec son petit nom, qui va du coup empêcher n'importe quel type de microphone d'écouter en tout cas les conversations de celui qui le porte. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc le bracelet a 24 speakers qui va émettre des signaux ultrasoniques quand celui qui le porte va l'activer tout simplement. Donc le son est imperceptible pour la plupart des oreilles. Alors ça peut être perceptible pour les jeunes, on va dire voilà, ceux qui sont jeunes et qui ont des oreilles en état de marche, on va dire ça comme ça, et les chiens également qui peuvent être sensibles à ça. Mais en tout cas, ça sera capté pour sûr par les microphones à proximité qui vont détecter la haute fréquence de son et qui vont du coup se concentrer là-dessus au lieu de capter les autres types de sons. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant parce que le principe, c'est quand vous avez quelque chose de privé à partager, vous pouvez activer le bracelet, vous êtes tranquille, ça ne sera pas écouté ou enregistré. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, quand on prend un petit peu du recul, aujourd'hui aux États-Unis, il y a un Américain sur cinq, un Américain adulte sur cinq, qui possède donc un smart speaker, une enceinte connectée. Et donc du coup, en effet, quand on va visiter des amis ou qu'on va chez l'un ou chez l'autre, eh ben du coup, ça veut dire que potentiellement, on va être écouté et enregistré à son insu sans vraiment le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous avertit qu'il y a une enceinte connectée dans l'environnement dans lequel on va pénétrer, chez l'un ou chez l'autre, et du coup, on peut être écouté et enregistré à son insu sans avoir donné son accord. Donc c'est vrai que c'est intéressant, l'article est un peu, comment dire, ironique. Il dit bientôt on n'aura plus des tapis d'entrée qui dit welcome, mais on aura bientôt des tapis d'entrée qui avertissent s'il y a une enceinte connectée ou pas dans la maison. Ça peut être ça, ou tout simplement on peut penser aussi à ces pièces de technologie, donc ces enceintes connectées, qui lorsqu'elles entendent une nouvelle voix ou reconnaissent un nouveau visage, vont directement se présenter elles-mêmes pour informer le visiteur de la présence d'un appareil connecté. Alors, on peut aboutir à des situations un petit peu étranges, mais en tout cas, je trouve que la démarche est assez intéressante. Alors, je fais une pause. Voilà. Alors, ça marche pour les ordinateurs et les téléphones. Tout ce qui peut capter ta voix en écoutant peut être du coup bloqué avec ce système. Voilà. Pas sûr que ça fonctionne, je suis pas sûr que les enceintes connectées. Ah, j'ai pas compris pourquoi tu penses que ça fonctionne pas, Pierre-Yves. En tout cas, dans l'article, moi j'ai pas testé, hein, je sais pas, il n'y a pas de données techniques et de tests partagés, mais a priori, ça marcherait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc ce bracelet du silence, c'est pas le premier appareil qui va permettre de bloquer des technologies. On va dire de surveillance, c'est-à-dire qui permet de vous écouter, de vous voir, etc. Voilà, c'est pas le but original de ces enceintes connectées, mais au final, il y a quand même une fonctionnalité always on, donc de surveillance, de monitoring en continu pour voir si vous dites le mot-clé. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs projets hein, qui ont pour but de bloquer ces éléments de surveillance. Il y a eu notamment des manteaux, il y a eu notamment des lunettes qui vont réfléchir du coup la lumière pour brouiller le visage. Là, vous voyez une photo d'une caméra de surveillance et on voit que le visage en entier est complètement invisible parce qu'il y a un point de lumière et donc du coup qui bloque la reconnaissance. Donc voilà, il y a eu des manteaux, il y a eu plein de choses qui permettent justement de lutter contre ces appareils de reconnaissance. Je trouve ça assez intéressant comme mouvement. En tout cas, pour finir sur le bracelet, a priori, il est facilement commercialisable puisque, en tout cas, le coût de fabrication s'élève à 20 $. Hein, donc potentiellement, on pourrait peut-être l'optimiser encore plus, peut-être optimiser le look aussi, mais bon, à voir. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de plan de commercialisation, même s'il y a eu des invitations à le faire. En tout cas, c'est intéressant. Il y a eu notamment Mister Urban qui a dit que les technologies aujourd'hui érodent notre vie privée, notre anonymité, et les gens cherchent une porte de sortie en gros, c'est ce qu'il essaye lui de proposer. Donc lui, en effet, il fait partie des personnes qui travaillent à plein temps sur des systèmes de protection de vie privée, et notamment quand je vous parlais des lunettes, un système de eyewear, donc de système de lunettes pour justement permettre de garantir l'anonymité des gens et la vie privée et empêcher les scans ou les caméras de reconnaissance. Voilà. Matt me dit tout plein d'anglicisme dans le live ce matin. Jérôme, tu n'as plus le monopole. Et oui, je suis désolée, c'est vrai qu'on prend des articles en anglais, donc c'est un peu compliqué de faire de la traduction en temps réel. Et c'est vrai que je travaille au quotidien en anglais, donc c'est un peu compliqué. J'ai mon esprit qui j'allais dire switch, mais qui change. directement de langage et c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais voilà, Jérôme aussi utilise des anglicismes mal écrits. Donc je m'excuse pour ceux qui sont gênés. J'ai une attaque de chat. Vous voyez, il était dans mon dos. Vous ne l'aviez pas vu, mais en fait, il était calé dans mon dos, entre la chaise et mon dos. Et là, il a besoin d'attention. Donc c'est le moment chat du mug ce matin. Donc du coup, j'essaie de me mettre un peu plus. Voilà. Ça, par contre, il ne faut pas que tu me caches l'article, sinon on va pas s'en sortir. Voilà pour le bracelet. On continue. Et cette fois-ci, on va faire des petites brèves sur. Parce qu'il est déjà 8 h 30, on va faire des petites brèves sur le streaming. Il y a des petites choses intéressantes qui se passent actuellement dans le streaming. Vous savez que c'est un peu mon dada, donc je vais en profiter ce matin. Juste pour vous dire que du côté de Culver City, donc à côté, à l'est de Los Angeles, si je dis pas de bêtises, à l'est de Santa Monica, pardon. À l'est de Santa Monica, donc en Californie et pas loin de Los Angeles, hein, dans la zone de Los Angeles, il y a Culver City. Culver City qui est en fait une zone très très prisée historiquement par les studios d'Hollywood. Et notamment, il y a un siècle, voilà, les pionniers d'Hollywood se sont installés là, ont construit leur studio là. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a des nouveaux arrivants dans cette zone, et vous l'avez deviné, à mon avis, les nouveaux arrivants, c'est les sociétés tech. Voilà, les sociétés tech et de divertissement. Hein, voilà, aujourd'hui, la frontière est un peu flou parce que tout est un peu tech, voilà. Et donc, qui sont les nouveaux arrivants? On a donc Amazon, Apple, on a AT&T avec leur service de streaming HBO. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a également Netflix qui sont arrivés avant. Et eux, ils sont situés à 8 miles au nord-est de Culver City. Donc, ils sont un petit peu dans la même zone. Ils ne sont pas exactement à Culver City, mais ils ne sont pas très, très loin. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi, du coup, ces nouvelles sociétés, on va dire, de divertissement. Alors, elles sont pas nouvelles historiquement, mais elles sont nouvellement dans le divertissement. Et elles doivent faire des gros paris en termes de production, de création originale, etc. Et ben du coup, pourquoi elles s'installent là? Tout simplement parce qu'en fait, il y a un pool... Alors, pas un pool, mais une réserve de talents, une concentration de talents liés à la production télé, cinématographique, des studios, des expertises liées à ce domaine-là, qui est impressionnante, hein, qui historiquement est située aux alentours de Los Angeles et donc Culver City. Et pour pouvoir se muscler en termes de création originale, il faut pouvoir taper, puiser dans ces ressources, que ce soit d'infrastructures, donc les studios en eux-mêmes, ou de talents, d'expertise, avec des connaissances bien spécifiques pour pouvoir faire de la production originale vidéo, quoi, de contenu. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir un peu les mouvements géographiques qui sont en train de se passer suite à l'évolution de certaines industries. Donc du coup, voilà, les streamers ont besoin d'être là où il y a les scénaristes, les producteurs et les autres talents créatifs, là où ils travaillent et vivent. Et donc du coup, c'est vrai que Culver City a un héritage riche en termes de cinéma. C'est également une position relativement centrale, puisqu'ils sont à une demi-heure du centre de Los Angeles et à 20 minutes de l'aéroport. Donc super pratique du coup pour faciliter les déplacements et être au centre aussi de Los Angeles. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ce qui fait que désormais aujourd'hui, Los Angeles devient la troisième plus grosse zone high-tech qui rassemble des personnes qui travaillent dans la tech sur la côte ouest. Donc c'est juste derrière San Francisco, la Bay Area de San Francisco et également Seattle. Après ces deux-là, il y a désormais Los Angeles, d'après un rapport publié en août par Clarison Partners. Comme ça, je vous cite un petit peu nos sources également. Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ces grosses sociétés tech, ces grosses sociétés de divertissement qui s'installent à Culver City, ça veut dire aussi que ça va attirer, ça va créer de l'emploi, des emplois très qualifiés, très cher payés, etc. Ça va aussi amener une certaine gentrification dans la zone de Culver City, ce qui n'était pas le... Enfin voilà, ça va augmenter notamment les loyers. On le voit là, il y a eu les prix des maisons qui ont augmenté de 72% en moyenne, la zone à Culver City est 72% plus haute en moyenne que le reste du Los Angeles County, voilà, de la région, par rapport à une étude de Zillow. Et donc on va avoir en place une espèce de gentrification qui va arriver pour le pire et pour le meilleur, hein. Ça amène des challenges compliqué pour les villes, à savoir aussi que justement le mois dernier, il y a eu également TikTok, vous savez la société la société ByteDance qui produit TikTok, qui s'est installée, TikTok aussi, c'est à la frontière entre la société tech, le divertissement, l'innovation, etc., donc c'est aussi dans ce type de mouvement-là. Voilà, on verra un petit peu peut-être dans les mois à venir, 24-36 mois à venir, qu'est-ce qui va devenir de Culver City. Voilà. Paresse intellectuelle. Je pense que c'est assez marrant de qualifier ça de paresse intellectuelle de faire des anglicismes quand on fait un live. Tu me donnes le temps que je veux sans avoir des personnes qui attendent que je parle et je pense que je peux te parler en français. Mais le sens du live, c'est un peu plus compliqué du coup à gérer. Et surtout que du coup, on s'aide d'articles en anglais. Donc c'est vrai qu'on les a sous les yeux en anglais et il faut continuer à parler en même temps. Donc je pense qu'en effet, c'est pas une notion de paresse intellectuelle. Parce que c'est pas une, ça part pas d'une paresse, quoi. La paresse, ça veut dire que c'est une action délibérée de notre part où on ne veut pas faire l'effort de parler en anglais, parler en français. Je sais, c'était de l'humour. Eh ben écoute, n'hésite pas à mettre un petit emoji la prochaine fois. Parce que du coup, c'est difficile de voir ton ton dans ce genre de commentaires. On enchaîne du coup en streaming. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'était notamment une évolution du côté de Spotify. Spotify qui va faire un petit redesign concernant les podcasts. Vous savez qu'avec le rachat de Ringer dernièrement, voilà, Spotify met le paquet sur les podcasts. Sauf que, je sais pas, vous, votre expérience justement sur les podcasts, mais moi, mon expérience avec Spotify, elle est pas top top parce qu'elle est pas super optimisée pour l'écoute des podcasts. Je trouve ça un peu... Bon, je suis pas une grande fan de l'application Spotify, pourtant c'est celle que j'utilise au quotidien, mais je trouve qu'elle est un peu, elle est complexe. Je trouve l'application complexe pour quelque chose d'aussi simple que d'écouter du contenu. Alors oui, vous allez me dire qu'il faut être capable de trouver du contenu, hein, et je suis d'accord avec vous, ça c'est pas quelque chose de simple, mais ouais, je trouve l'application un petit peu complexe. Et donc pour les podcasts, je suis pas entièrement satisfaite, et je pense que du coup ils se sont lancés récemment sur ce nouveau type de contenu et du coup ils sont en train d'essayer de faire vraiment des efforts sur le sujet et notamment plus sur la page individuelle de présentation du podcast en lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer peut-être une petite photo, comme ça vous pouvez voir. Hop, ici. Donc là, vous voyez que en introduction, vous avez une vignette carrée avec le nom du podcast. Comme ça, vous pouvez avoir la présentation. Vous avez directement sous la vignette un petit bouton follow. Sous le bouton follow, vous allez avoir une présentation. Donc ça, avant, il fallait swiper. Enfin, elle était un petit peu enterrée. Vous avez un petit bouton Simore pour la description pour avoir un peu plus d'informations. En dessous de la description, vous avez des tags de thématiques. Donc là, par exemple, pour The Dave Chang Show, vous avez notamment un tag food, voilà, et en dessous vous avez la liste des épisodes disponibles, quoi. Donc voilà pour une présentation un petit peu de la page. Donc en effet, Spotify a fait plusieurs choses, donc ils ont ramené sur le devant de la scène les descriptions des podcasts, ils ont mis en avant également le bouton follow et ils ont amené ces tags. Alors ce qui est intéressant avec ces tags aussi, c'est que quand vous tapez dessus, vous allez pouvoir tomber sur d'autres podcasts qui ont ce même tag et donc ça va vous pouvoir potentiellement vous aider à découvrir de nouveaux types de podcasts que vous ne connaissiez pas avant. Je trouve ça super malin. Autant c'est pas quelque chose que j'aurais fait pour de la musique, autant pour du podcast, c'est quelque chose que je ferais peut-être, ouais. Peut-être. On verra à l'usage. En tout cas, l'idée me plaît. Je ne sais pas si à l'usage je le ferai. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus très intéressant, c'est que maintenant, Spotify va mettre tout en avant de la liste des épisodes du podcast, va mettre en avant des trailers épisodes, donc des espèces de bandes-annonces, on va dire ça comme ça, voilà, des bandes-annonces de présentation des podcasts. Alors, ils sont courts, hein, 1 à 2 minutes, 1 à 2 minutes d'extrait pour cette bande-annonce, et le but, c'est qu'ils vous donnent un bref aperçu du show, hein, pour pouvoir vous aider à vous faire une idée si c'est un podcast qui va vous plaire ou pas. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et vraiment, on sent que Spotify essaye de mettre tout ce qu'il faut en place pour vous aider à avoir toutes les informations essentielles au premier coup d'œil quand vous intéressez sur une page de détails de podcast. Voilà, avec la description facilement accessible, le trailer, la bande-annonce de podcast disponible, etc. Donc, on va voir. Ce sera certainement pas la dernière amélioration qu'ils vont proposer pour la section podcast. On termine avec la notion streaming des actus ce matin, avec une dernière news qui concerne Netflix et Samsung. Alors, vous savez, Samsung, avec l'annonce de ses nouveaux smartphones S20, etc., ils ont mis en place des partenariats. On en a parlé, Jérôme en a parlé la semaine dernière, avec notamment le partenariat avec Flipboard TV. Et ben là, le partenariat, c'est avec Netflix. C'est pas la première fois qu'ils ont un partenariat ensemble. Par contre, c'est la première fois qu'ils ont un partenariat sur proposer plus de contenu pour les utilisateurs de Samsung S20. Donc ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que va gagner Netflix et qu'est-ce que va gagner Samsung dans le partenariat ? Eh bien, tout simplement, Netflix va pouvoir être mieux intégré avec les fonctionnalités, donc chat ici, pour les fans. Netflix va pouvoir être mieux intégré aux fonctionnalités de Samsung, notamment avec l'assistant Bixby. Vous allez pouvoir chercher des shows, etc., directement avec l'assistant. Ça sera également intégré à des features du type le Samsung Daily, leur plateforme de découverte, hein, de contenu, etc. Donc voilà, il y aura une mise en avant en tout cas de Netflix, du contenu Netflix pour les possesseurs de Samsung S20. Et qu'est-ce que gagne Samsung ? Et bien tout simplement, ils vont gagner aussi du contenu exclusif, puisque Netflix va proposer du coup des contenus du type behind the scenes, les coulisses de certains shows, de tournage, les coulisses de tournage, on va dire ça, des histoires qui vont accompagner les programmes présentés. Alors, on a eu aussi des propositions de podcasts, enfin voilà, des histoires qui vont développer un show d'origine, un programme d'origine, et qui va raconter la suite ou une autre histoire, etc., en podcast. Donc, ça peut être ça, ou d'autres types de bonus, de contenu bonus, et le tout, on s'en doute, filmé avec un Galaxy S20 pour montrer un petit peu les performances du smartphone. Alors aujourd'hui, les bonus qui sont prévus, ça sera en rapport avec les séries Narcos Mexico, Sintonia, Elite, Netflix is a joke. Donc voilà, et ils disent aussi qu'il y aura plus de programmes avec du contenu exclusif dans les temps à venir. Donc restez à l'affût s'il y a des choses qui vous intéressent. En tout cas, le but, c'est d'avoir une expérience optimale pour Netflix sur les devices Samsung. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander pourquoi Netflix fait ça. En plus, ils vont dégrader l'expérience, entre guillemets, ils vont pénaliser ceux qui n'ont pas de téléphone Samsung. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le contenu exclusif sera également disponible gratuitement sur les sites Samsung. Donc, vous pourrez quand même vous rendre là pour voir les contenus. Et le contenu n'est pas... Samsung n'a pas les droits pour le contenu. Les droits appartiennent quand même à Netflix. Ça veut dire que potentiellement, après un certain laps de temps, Netflix pourra décider de les mettre à disposition où il veut. À voir. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. En tout cas, pourquoi c'est très très pertinent du côté de Netflix, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est le seul service de streaming qui n'a pas de mode de distribution. Donc un service de streaming, mais ils n'ont pas de distributeur derrière. Et quand on regarde la compétition, par exemple, Verizon aux États-Unis propose un abonnement, une année gratuite à Disney+. On va avoir également Quibi qui va être en partenariat avec T-Mobile. On va avoir NBCU, le propriétaire de Comcast, qui a son propre réseau mobile. On a Xfinity Mobile. Voilà, et on a HBO Max qui va profiter de AT&T Warner Media. Voilà, et pour Apple, c'est à la fois le distributeur et également le service de streaming, puisqu'ils vont pouvoir distribuer leur contenu sur tous les devices Apple. Donc, au final, ça laisse Netflix dans une situation un petit peu inconfortable, puisque c'est les seuls qui n'ont pas un distributeur. Alors, c'est vrai, aux États-Unis, ça l'est moins à l'échelle internationale, parce que de nombreux distributeurs ne sont pas présents. Par exemple, si on prend la France, il n'y a pas Verizon, etc., etc. Donc, à voir, mais en tout cas, aux États-Unis, où justement la croissance stagne un petit peu du côté de Netflix, pouvoir s'associer avec un distributeur et un distributeur de la trempe de Samsung qui est du coup qui n'est pas n'importe qui, fait complètement sens. Voilà. Donc voilà pour la dernière news côté streaming. Je vais vous parler quand même un petit peu de notre sponsor ce matin. Vous le connaissez, c'est Shadow, le PC dans le cloud qui vous permet du coup d'avoir vos composants toujours à jour et de pouvoir vous connecter à votre PC à distance et de profiter de la pleine puissance sans vous embêter à maintenir les composants, à remplacer, etc. votre machine tous les 2-3 ans. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ça marche sous forme d'abonnement. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est si votre connexion internet est suffisamment stable et rapide, en tout cas fiable, pour que l'expérience Shadow se passe dans les meilleures conditions. Alors pour ça, on vous offre justement un mois gratuit, un mois de test avec Nowtech, en tout cas avec le mug et Shadow. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, il faut suivre le compte Nowtech sur Twitter et le compte Shadow France sur Twitter et vous pouvez partager un tweet du type je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer à ou utiliser le logiciel que vous souhaitez. Et il y a un gagnant tiré au sort par semaine. Il est contacté le vendredi par un message privé sur Twitter. Donc essayez de faire attention à ça. Et si vous ne gagnez pas cette semaine, vous pouvez rejouer jusqu'à ce que vous gagniez. On essaie de faire découvrir le service au plus grand nombre. C'est le meilleur moyen de voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Voilà pour Shadow. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Et voilà, on commence avec la tartine. Donc je vais vous parler de streaming. Hein. Vous savez que j'aime bien le streaming. Et là, c'est streaming et vraiment, vraiment technologie puisqu'on va parler du phénomène des deepfakes. Alors pourquoi je voulais vous en parler? Parce que tout simplement, il y a eu des articles qui sont parus hier, il y a un jour à peu près, qui ont mentionné une vidéo ou en tout cas une blague avec Robert Downey Jr. et Tom Holland. Donc pour ceux qui ne resituent pas les noms des acteurs, Robert Downey Jr. il joue Iron Man et Tom Holland joue le jeune Spider-Man dans la dernière série Marvel. Et donc du coup, pour ceux qui ont regardé les films Marvel, il y a une relation un peu père-fils entre Iron Man et Spider-Man qui est assez réussie pour le coup. La dynamique entre les deux personnages et les deux acteurs fonctionne plutôt bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, ces deux acteurs se seraient amusés à reprendre Retour vers le futur en incarnant du coup le professeur et Marty McFly pour Tom Holland. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer juste un petit peu quand même. Je vais juste vous montrer l'image. Je vous laisserai aller voir la vidéo, hein. Mais juste l'image est frappante. Et en fait, moi, quand j'ai vu les articles, quand j'ai vu la photo, j'ai fait ah mais c'est génial, c'est trop bien, ils ont dû trop s'éclater et tout. Jusqu'à ce que je m'aperçois en fait que c'était juste un deepfake. J'avais pas lu le titre de l'article correctement et parce que les articles n'étaient pas non plus là pour nous induire en erreur. Mais j'y ai vraiment cru quoi. C'était assez saisissant. Je trouve que cette photo est assez saisissante. Voilà, et donc du coup en fait c'est un deepfake. Alors qu'est-ce que c'est un deepfake? Tout simplement c'est une technologie qui permet de remplacer le visage dans une vidéo par le visage d'une autre personne tout en ayant la vidéo qui continue, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir le nouveau visage qui va interpréter, enfin qui va bouger comme le visage d'origine aurait dû, et donc du coup c'est juste... on échange et on remplace le visage donc des acteurs d'origine par Robert Downey Jr. pour le professeur et par Tom Holland pour Marty McFly. Donc c'est assez saisissant, comme assez bluffant. Ouais, je vois vos commentaires un petit peu dans la chatroom pour la photo, mais je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo, elle est assez marrante. Et ça vient en fait d'un YouTuber qui s'appelle EzRiderX47 qui est un peu coutumier hein, d'utiliser les deepfakes. Il s'amuse pas mal, voilà, il utilise différents logiciels pour ça, c'est des logiciels gratuits. Alors il existe DeepFaceLab, HitFilm, Express 13, voilà. Ça lui permet en fait tout simplement de prendre le visage d'une personne et de le remplacer dans une autre vidéo, quoi. Donc là, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est du divertissement, c'est une blague, il n'y a pas de notion d'induire en erreur les gens. En effet, c'est bien affiché que c'est un deepfake, etc. Mais en tout cas, ça peut être évidemment être utilisé à mauvais escient. On a déjà eu des cas hein, de tentatives de manipulation avec des vidéos qui cherchent à porter préjudice hein, aux personnes d'origine. Donc, faut faire attention. En tout cas, voilà, c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus. On a par exemple sur l'émission La Grande... enfin, voilà, je sais pas si... voilà, c'est l'émission La Grande Métamorphose. Voilà, je sais pas si c'est ça le nom de l'émission, mais voilà. Où on a, du coup, Canteloup qui va pousser sa performance d'imitateur à utiliser le deepfake pour être encore plus saisissant. Alors, c'est pas aussi bien fait. Vous pouvez voir la vidéo, encore une fois, elle est disponible. C'est pas aussi bien fait, mais c'est vrai que ça pousse un peu plus loin la performance d'imitation, d'incarnation d'un personnage à l'écran. Donc, c'est assez intéressant comme démarche. Je trouve. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage ou la performance, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la démarche est intéressante pour le deepfake. Donc voilà, c'est intéressant et du coup ça soulève des questions avec notamment cet essai pour Retour vers le futur. L'artiste en tout cas le youtubeur a tenté la chose à faire, c'est-à-dire il a essayé de mettre le visage de Marty McFly, enfin l'acteur j'ai oublié le nom de l'acteur. En plus j'adore cet acteur. L'acteur c'est, je vais vous le dire. Quand même, Michael J. Fox, voilà, Michael J. Fox, acteur que j'adore et qui est, enfin voilà, qui est vraiment génial. Ils ont pris le visage de Michael J. Fox et ils l'ont mis à la place de l'acteur de Spider-Man, donc Tom Holland, dans un des films Marvel. Alors là, ça fonctionne moins bien, hein, je vous le dis tout de suite. En fait, là, il y a quelque chose d'étrange, c'est que la bouche ne bouge pas quand il parle, donc du coup, on n'a pas du tout la même sensation. Et voilà, donc en tout cas, c'est intéressant, ça marche plus ou moins bien en fonction des essais. Voilà. En tout cas, ça soulève des points intéressants du type, qu'est-ce qui se passe après le décès d'un acteur? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de cette technologie de deepfake pour continuer à l'utiliser sans le consentement de l'acteur qui est décédé et donc continuer à le faire produire? Et donc, potentiellement, il y aura une saturation des mêmes acteurs dans les productions vidéo. On utilisera toujours les mêmes visages. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut se faire? Ou une autre réflexion qui est, c'est quoi le consentement d'un acteur pour jouer, interpréter tel rôle, quoi. Là, par exemple, on a mis Robert Downey Jr. et Tom Holland à la place des acteurs d'origine. Ils n'ont jamais rien demandé, hein, Robert Downey Jr. et Tom Holland. Ils n'ont jamais donné leur accord non plus, mais on leur a fait jouer, entre guillemets, des personnages sans les en informer. Donc là, il y a aussi comment contrôler l'image. Alors là, je parle spécifiquement des acteurs, mais en fait, c'est vrai pour toutes les personnes, enfin les personnages publics, où on va pouvoir leur faire dire et faire n'importe quoi. Mais voilà, spécifiquement pour les acteurs, au final, ça veut dire quoi signer un contrat pour jouer, interpréter tel personnage. Autre chose intéressante aussi, c'est que le deepfake, pour l'instant, se limite, en tout cas, se limite à échanger juste le visage. Donc en fait, quand vous voyez la séquence, il y a des choses qui vous frappent, c'est-à-dire les postures des personnages ne sont pas les postures d'habitude qu'utilisent Robert Downey Jr. ou Tom Holland dans leur rôle. Ils ont une patte, ils ont une manière de jouer qui est spécifique et du coup, c'est pas celle-là. Donc en fait, c'est juste un changement de visage, c'est pas une vraie interprétation du personnage. Donc c'est là aussi où c'est une vraie différence. Et puis après, il y a la taille de Robert Downey Jr., quoi. Il faut quand même le dire, l'acteur qui jouait le professeur n'avait quand même pas la même taille. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. bref, voilà, le deepfake était assez saisissant. En tout cas, moi, la photo, je la trouvais géniale. Je vous encourage à aller lire pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est une bonne question, il faudrait demander son avis à Carrie Fisher. Alors Carrie Fisher, justement, hein, ils ont demandé l'avis parce qu'il y avait sa fille, et sa fille notamment a aidé à doubler sa mère lors d'une des scènes du dernier Star Wars. Donc certes, ils n'ont pas demandé l'autorisation à Carrie Fisher en elle-même, mais ils étaient proches, ils ont échangé avec les proches de l'actrice. Voilà. Donc... là, a priori, je suis plutôt à l'aise sur, sur ça. Je vous propose de terminer l'émission et d'enchaîner avec les cornfac. J'espère que vous avez passé une bonne émission, un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié votre compagnie dans la chatroom. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Et puis, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente, excellente journée. Et je vous retrouve, moi, en ce qui me concerne, la semaine prochaine. N'oubliez pas, demain, c'est Guillaume qui présentera le mug. Et puis après, ça sera Jérôme. Petite information, d'ailleurs, le jeudi VIP, cette semaine, ça sera le vendredi VIP. Jérôme a un petit empêchement jeudi soir et pour pas vous couper la tartine, pour pas vous couper la séquence VIP trop rapidement, il préfère la décaler au jour suivant. Voilà, donc ça sera le vendredi cette semaine et pas le jeudi. De toute façon, vous serez avertis pour ceux qui nous soutiennent. Voilà, voilà. Pas de questions platinium, mais du coup, écoutez, il reste 3 minutes. 3 minutes top chrono, vous pouvez me poser n'importe quelle question dans la chatroom, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Alors, je lis un petit peu vos questions. Je lis un petit peu vos retours. Je dois changer mon laptop et pour des raisons pro, je dois passer chez Apple. J'ai beaucoup de mal. Je travaille de temps en temps pour sur Mac fin. Je travaille de temps en temps sur Mac fin 2018. La course du clavier est hyper short. La course du clavier, ça a changé. Je crois que sur le 16 pouces, le clavier est mieux. Hein. Mais j'ai pas super bien compris ton commentaire. Oui, Jérôme est chez Samsung jeudi soir, justement. Bonjour, rien sur les Brits. C'est quoi les Brits ? De quoi tu parles, Laurent ? As-tu vu Ragnarok, nouvelle série sur Netflix ? J'ai vu le trailer, j'ai vu l'image, mais j'ai pas regardé la série. T'en as pensé quoi, Olivier ? Ça m'intéresse. Les Brit Awards. Non, j'en ai pas parlé, en effet. Il y avait trop de choses à gérer sur la tech ce matin. Est-ce que tu as testé Cybelle, appli de production podcast plutôt orientée vers des séries podcast ? Non, Sally Black Widow, non, je ne l'ai pas du tout testé. Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans cette application ? Des infos sur la présentation des Surface Book prochainement. Matt, j'ai rien vu passer sur le sujet. Alors, j'ai peut-être raté des choses, mais j'ai rien vu passer sur le sujet. La course des touches. La course des touches est très courte. Je ne sais pas ce que tu veux dire par la course des touches. Ah, le quand tu appuies ? Je crois que le MacBook Pro 16 pouces a un clavier qui est plus agréable. En tout cas, moi, je l'ai testé et je le trouve mieux. Je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais tu peux essayer d'aller le tester dans un Apple Store pour voir ce que tu en penses. Et du coup, a priori, ils vont le mettre à jour hein, sur les autres MacBook Pro bientôt. Tu nous dis quand tes solutions de backup. Écoute, Pascal, déjà, je me suis débarrassée de Aperture. Je crois que c'était ça que j'utilisais. J'ai tout passé sur photo. Sans... C'était pas facile. J'ai encore des problèmes. J'ai encore 350 photos qui veulent pas s'uploader sur iCloud. J'ai aucune explication d'Apple, j'ai rien pour débugger, donc je trouve ça génial. Et tant que j'ai pas résolu ça, rien que d'y penser, ça me saoule. Je ne ferai pas d'autres backups. Mais en tout cas, toutes les photos sont sur un disque dur externe, pas sur mon Mac. Mais bon, si ce disque dur me quitte, bah, mes photos me quittent. Hein. Je sais, c'est pas idéal. Mais a priori, il y a le disque dur et du coup, iCloud, excepté 350 photos. J'y arrive, pas à pas. Alors, je lis un petit peu. Faut-il attendre le refresh des iPads avant de passer sur un Pro? Ben, Alex, oui. J'ai envie de te dire, si c'est prévu pour mars, c'est un petit peu dommage de passer sur un Pro maintenant parce que tu vas le payer plus cher. C'est-à-dire cette génération-là qui va être rafraîchie. Donc, il va y avoir deux générations de l'iPad Pro. Cette génération-là va très certainement baisser en prix après la sortie des nouveaux qui est prévue pour mars. Donc, soit tu veux les tout derniers et donc vaut mieux attendre mars, soit tu veux payer un peu moins cher les actuels et donc vaut mieux attendre mars également. Donc, je te conseille vraiment d'attendre un petit peu. Potentiellement beaucoup si le stock est difficile à avoir. Mais ouais, je te conseille quand même d'attendre au moins les annonces. Moi, j'ai un 15 pouces et le clavier est vraiment, je sais pas quoi, pour dépanner en déplacement parce qu'il est pas top. Sinon, je suis avec un clavier externe. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi, j'utilise un clavier externe. Au quotidien, j'utilise un clavier externe parce que j'ai un stand pour mon Mac et j'ai le clavier. Donc, au final, je n'utilise pas vraiment. C'est comme cette barre lumineuse au-dessus du clavier, c'est insupportable. T'as tes contrôles qui changent en fonction des applications, c'est insupportable. Je donnerais tout pour revenir au clavier normal sans espèce de barre, je sais pas quoi, comme mon Mac ici, parce que moi j'ai un vieux Mac chez moi qui a mes touches de luminosité, de son normal. Mais bref, voilà, on passe tout le temps du temps à se plaindre, etc. Bon voilà, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur, sur le clavier. Donc du coup, il est 9h02. Je vous propose de vous souhaiter une excellente journée. Ah, Olivier, j'ai bien aimé Ragnarok, l'ambiance et la construction de l'histoire avec cette ambiance nordique. Ouais, le trailer m'a pas super convaincu. Je crois principalement à cause de l'acteur principal hein, qui avait l'air pas super, super bon. Mais il faudrait peut-être que j'essaye au moins le premier épisode. Mais c'est noté, Olivier, merci pour d'avoir partagé ton avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Les ingénieurs appellent en PLS après le test laser de Marion sur la touch bar. Non, mais elle est insupportable, cette touch bar. À chaque fois que j'en parle avec les gens, tout le monde est saoulé par cette touch bar. En plus, il paraît qu'elle est super chère à produire. J'ai envie de te dire, autant me couper le coup de la production de la touch bar sur mon Mac, quoi. Bref, je suis méchante. Les usages vont évoluer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume à 8h pour le prochain mug. Et Jérôme vous retrouve vendredi à la fois pour le mug à 8h et pour le vendredi VIP à partir de 18h. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée et à bientôt. Bye bye!